On commence la réunion. On est bienvenue à tous. On est en train de regarder le mystère de la piété. On a défini la semaine passée que le mystère de la piété, c'est le Seigneur Jésus. On va commencer dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Donc, le mystère de la piété, c'est le Seigneur Jésus qui est venu. Puis Paul, ici, en écrivant à Timothée, dit au verset 16 de chapitre 3, il dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. La semaine passée, on avait dit que sur le sujet, Paul est en train de parler, donner les instructions à Timothée pour enseigner les églises comment fonctionner. Puis c'est pour ça que dans le verset 14, il avait dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc la semaine passée, on avait établi le lien entre le mystère de la piété, c'est le Seigneur Jésus, qui est la ressemblance de Dieu, c'est Dieu lui-même manifesté dans la chair, et c'était lui qui est le résultat direct de la manifestation du mystère de la piété ici sur la terre. C'est l'Église qui est la maison du Dieu vivant. On avait parlé par rapport à l'échelle de Jacob quand il était en s'en allant à Padanaram. Dans un songe, il avait vu une échelle posée sur la terre dont le sommet touchait au ciel avec les anges qui montaient et descendaient sur cette échelle-là. Puis Jacob avait dit, c'est vraiment ici la maison, c'est la porte du ciel, c'est la maison de Dieu. Il avait appelé cet endroit Bethel. Donc on voit le lien encore là. Puis le Seigneur Jésus, dans Jean 1, en parlant à Nathanaël, il avait dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc il identifie l'échelle que Jacob avait vue dans son songe comme étant lui-même, c'est la même façon qu'il parle, les anges monter et descendre. Donc le Seigneur Jésus est ce lien-là qui est venu sur la terre. L'échelle était posée sur la terre, mais son sommet touchait au ciel. Donc c'est ça que le Seigneur Jésus est venu, un médiateur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Mais on avait vu que dans l'Épître à Timothée, Timothée parle des instructions, comment se conduire dans la maison de Dieu. Puis, on avait vu ça. Il disait qu'est-ce qui était important, c'était un amour venant d'un cœur pur, une bonne conscience, puis une foi sincère, de la façon qu'on doit se conduire dans la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. On avait vu ensuite que, d'après le verset 16 du chapitre 3, il avait dit, Dieu a été manifesté dans la chair, donc il définit le mystère de la piété. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Puis on avait déjà vu la semaine passée, on avait vu le jusqu'à juste, on avait vu qu'il était manifesté dans la chair, puis justifié par l'Esprit, on était rendu à vu des anges. Donc on va commencer à ce point-là ici ce soir, mais avant de commencer, on va demander l'aide du Seigneur dans l'enseignement de sa parole. Seigneur notre Dieu, encore une fois, on est devant toi, puis comme le Seigneur Jésus a nourri les foules avec le pain, les foules qui étaient avec lui pour l'entendre dans son enseignement, eh bien Seigneur, on te demande que tu nous nourrisses encore ce soir. Tu nous donnes par ta parole le pain de vie, cette parole merveilleuse qui nous enseigne des choses qui te concernent. On te remercie pour le Seigneur Jésus qui est venu sur la terre, lui qui est le mystère de la piété, le mystère qui a été révélé et on a pu le connaître, on a pu le voir, puis maintenant il est élevé dans la gloire, d'où il va revenir un jour pour nous prendre avec lui. Mais en attendant, Seigneur, tout ce qu'on peut connaître de lui est vraiment merveilleux, nous encourage et nous donne une grande joie. Donc on s'attend à toi ce soir, Seigneur, pour que tu nous montres des choses dans ta parole encore. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, quand on voit que, comme on a dit tantôt, il était manifesté dans la chair, il était justifié par l'Esprit, on avait vu ça. Puis maintenant, on voit qu'il était vu des anges. C'est intéressant de voir comment les anges veulent comprendre, veulent connaître, veulent voir ces choses-là. Et même si eux, le salut n'est pas pour eux. On sait que les anges qui sont déchus, eux vont être perdus pour l'éternité. Il n'y a pas de salut pour les anges, mais les anges qui ont gardé leur état, qui ont resté attachés à Dieu, eh bien, ils ont un grand désir de voir les choses que ce mystère de la piété-là qui est venu sur la terre. On dit que Pierre, il parlait du salut qui est nôtre. Il disait que dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Donc, on voit vraiment que pour les anges, il y a un grand intérêt. Et on le voit aussi dans l'Ancien Testament, l'intérêt que les anges portaient à cette manifestation-là de Dieu. C'est quelque chose quand on voit que le mystère de la piété a été manifesté, qui est venu ici sur la terre, puis il dit que c'est un mystère. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté dans la chair. Quand on pense aux anges, on voit que ça revient de temps en temps quand, par rapport, mettons, au voile dans l'assemblée, il dit que à cause des anges. Donc, les anges, ils ont une vue, ils voient ce qui se passe sur la terre par rapport à ce que le Seigneur fait ici. Les anges ont un intérêt dans le plan de rédemption de Dieu. C'est grand le plan de rédemption de Dieu. C'est vraiment merveilleux. Mais on sait que le Seigneur Jésus, lui, il est au-dessus des anges. Si on va dans Colossiens, au chapitre 2, on va au verset 10, on voit que le Seigneur Jésus est au-dessus des anges. Colossiens 2, verset 10, c'est pas un ange, mais il est apparu dans l'Ancien Testament comme l'ange de l'Éternel, mais il est plus grand que les anges. On voit que quand l'ange de l'Éternel a apparu dans l'Ancien Testament, il recevait l'adoration, puis son nom était merveilleux, des choses qui nous rappellent que c'était Dieu manifesté aussi dans ce temps-là, qu'on appelle des théophanies. Donc, dans Colossiens 2, au verset 10, il dit ici, vous avez tout pleinement en lui, donc en parlant du Seigneur Jésus-Christ, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Puis quand on pense aux anges, c'est des dominations aussi dans les lieux célestes. Le Seigneur Jésus, lui, on voit qu'il est le chef de toute domination, de toute autorité. Donc, il est au-dessus des anges. Mais on voit, par exemple, qu'il a été abaissé. Dans Hébreux 2, 9, on voit qu'il a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Donc, il a pris une place en étant manifesté ici sur la terre, le mystère de la piété. Donc, il s'est abaissé dans Hébreux chapitre 2, au verset 9. Il dit, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Alors, c'est juste temporaire, c'est quand il est venu ici sur la terre en tant qu'homme, il a été abaissé au-dessous des anges. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Donc, il a été abaissé un peu au-dessous des anges pour un peu de temps. Mais on voit qu'à sa naissance, les anges étaient présents. Quand le Seigneur Jésus est né à Bethléem, on a vu la manifestation des anges qui étaient là pour annoncer sa naissance. Ils l'avaient annoncé à Joseph, ils l'ont annoncé aussi à Marie, ils l'ont annoncé aussi aux bergers. C'est les anges qui ont annoncé ces choses-là. On pense à l'ange Gabriel qui a annoncé à Marie, à Joseph aussi, ne crains pas de prendre Marie pour femme, parce que l'enfant était conçu du Saint-Esprit. C'est pas qu'elle avait été infidèle, mais elle était vierge. Mais les anges ont annoncé, puis aussi ont été annoncés. On voit l'enthousiasme quand ils sont allés annoncer la naissance du Seigneur Jésus aux bergers qui veillaient leur troupeau dans les veilles de la nuit, puis qui leur ont dit d'aller à Bethléem, puis qu'ils verraient l'enfant couché dans une mangeoire. Puis ils sont allés pour aller voir ces choses-là. Mais on voit aussi que les anges ont annoncé ces choses-là, mais aussi après qu'il avait jeûné pendant 40 jours, qu'il a été tenté par le diable au désert, on voit que les anges sont venus pour le servir. Voyez-vous le contact ici avec le mystère de la piété, les anges viennent pour le servir. À Gethsémané aussi, quand sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang, on voit qu'il y a un ange qui est apparu du ciel pour le fortifier dans Luc 22, dans Luc 22, verset 43. On voit qu'il y a un ange qui est venu pour le fortifier. Verset 43, il dit, peut-être au verset 42, en disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Ensuite de ça, on voit que les anges étaient là aussi à sa résurrection. Quand le Seigneur Jésus est ressuscité des morts, on voit que les anges étaient là aussi. Puis tout ça, c'est pour montrer l'intérêt que portaient les anges par rapport aux activités du Seigneur Jésus ici sur la terre, quand il est venu ici sur la terre, dans Matthieu 28, au verset 4. Il apparaissait, ils ont paru aux gardes romains, puis aussi aux femmes. Donc, Matthieu 28, au verset 4, on arrive, il dit, on va peut-être commencer au verset 1, il dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Donc, ils sont venus annoncer aux femmes que le Seigneur Jésus était ressuscité, puis ils ont roulé l'ange a roulé la pierre, puis c'est sûr que les gardes ont vu ces choses-là, mais il s'est adressé aux femmes. Sûrement que les gardes tremblèrent de peur, puis ils devinrent comme morts, parce qu'ils gardaient la tombe du Seigneur Jésus. Puis là, maintenant, il n'était plus là, la pierre étant roulée, ils ont vu que son corps n'était plus là. Puis pour eux autres, ben, c'est sûr que ça voulait dire que ils allaient payer de leur vie. Mais en même temps, cet ange-là, son aspect était comme l'éclair, son vêtement blanc comme la neige, quand il est apparu, ils ont eu peur. Donc, on voit encore là que les anges sont apparus du ciel, sont venus, un ange qui est venu annoncer la résurrection du Seigneur Jésus. À son ascension aussi, quand on va dans Actes 1, 10, on voit aussi qu'il y avait un ange, des anges là aussi, Actes 1, au verset 10. Donc, on voit qu'ils sont toujours ils sont toujours à observer tous les mouvements. Puis, c'est comme avec une grande joie que ces anges-là voient les activités ici, les choses se passer. Et ils parlent des disciples. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, parce que le Seigneur s'est enlevé vers le ciel, puis jusqu'à ce qu'une nuée le dérobe à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, c'est encore des anges qui sont venus pour deux hommes vêtus de blanc qui sont venus pour annoncer, pour dire aux disciples que le Seigneur Jésus allait revenir de la même façon. Mais c'est à remarquer que quand le Seigneur Jésus était sur la croix, il n'y avait pas d'ange qui était là. Parce que le Seigneur Jésus, quand il était sur la croix, il a été abandonné, il a été laissé seul à la croix. Parce que c'est lui seul qui pouvait accomplir l'œuvre de rédemption. C'est lui seul qui pouvait donner sa vie pour nos péchés. C'est lui seul qui était rédempteur. On sait que dans la religion, on parle de Marie comme co-rédemptrice, mais c'est seulement le Seigneur Jésus qui pouvait être le rédempteur. C'est lui qui, parce qu'il était Dieu, manifesté dans la chair, a pris un corps d'un homme pour mourir sur la croix, pour nous racheter de nos péchés. Mais là, il n'y avait pas d'ange, c'était seulement lui qui pouvait le faire. Mais on voit quand même qu'en observation, un peu comme il y avait les passants qui passaient là, voyaient le Seigneur Jésus sur la croix souffrant. Et il y en a qui se frappaient la poitrine, il y en a qui se moquaient, il y avait les chefs religieux qui étaient là. Qui observaient, mais il y avait aussi les puissances du mal étaient là aussi. Dans Luc 22, on voit Luc 22, verset 53, on sait que Satan, il est dit du Seigneur Jésus qu'il écraserait la tête du serpent, mais le serpent lui blesserait le talon. Donc, dans Luc, au chapitre 22, verset 53, le Seigneur Jésus, il leur dit ici, j'étais tous les jours avec vous dans le temple. Et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Donc, la puissance des ténèbres ici était là aussi quand le Seigneur Jésus était sur la croix. Pas pour l'aider, mais pour observer. Puis, c'est comme si Satan pensait d'avoir une victoire en éliminant le Seigneur Jésus de la terre. Mais on sait très bien que, selon la prophétie qui avait été dite, c'est que l'ennemi, Satan, lui blesserait le talon, mais la postérité de la femme écraserait la tête du serpent, qui est la victoire finale. Donc, ce qui paraissait être une défaite pour le Seigneur Jésus était vraiment la grande victoire qui est donnée pour nous. Donc, on voit que les anges avaient un intérêt, ils ont un intérêt dans ces choses-là, dans le plan de rédemption de Dieu. Puis, ce qui dit vue des anges, et c'est ça qu'on regarde ensemble. Mais si eux ont un intérêt dans un plan de rédemption qui n'est pas pour eux, et parce qu'ils trouvent, ils voient là-dedans la sagesse infiniment variée de Dieu, combien nous, on devrait avoir un grand intérêt pour toutes ces choses-là, tous les événements qui se sont passés concernant notre rédemption. Mais on voit comme quatrième point, on voit qu'il était prêché aux nations. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté dans la chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations. Donc ça, c'est l'histoire des Actes jusqu'à maintenant, là, que le Seigneur Jésus a été prêché aux nations avec les apôtres, puis tous les efforts missionnaires. Ça a commencé avec les apôtres de Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée, dans la Samarie, puis jusqu'aux extrémités du monde. C'est ça qui était, quand il dit qu'il était prêché aux nations. C'est remarquable de voir qu'un événement qui s'est passé à Jérusalem, que le Seigneur Jésus, qu'on méprise, qu'on ne veut pas entendre parler de lui, et que lui n'a pas cherché la popularité, il est resté toujours dans la Judée, dans la Samarie. Mais son message maintenant est proclamé parmi les nations. Il a été prêché aux nations. Puis ça, on peut vérifier ça. Alors, il y a des gens partout dans le monde qui ont entendu l'histoire de l'Évangile. Ça a commencé avec les apôtres. Le Seigneur leur avait dit de commencer à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, puis d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Puis c'est ce qui est arrivé avec le message du mystère de la piété qui a été manifesté ici en chair. Ça, c'est l'histoire des Actes. Quand on lit le livre des Actes, on voit comment, dans leur temps, ils ont rejoint le monde connu. C'est ça qu'on dit, d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, ce n'est pas nécessairement à la fin de 2000 ans qu'on réussit à rejoindre les extrémités de la terre, mais c'est que c'est toujours à chaque génération, c'est le commandement du Seigneur, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On pense à tout l'effort pour enseigner ce message-là du Seigneur Jésus qui est venu ici mourir sur la croix. Combien il y a d'efforts? Moi, des fois, j'en reviens pas. Nous, on a chacun notre tâche à accomplir pour enseigner ces choses-là. Mais comment il y a des gens qui ont laissé. Ils ont laissé leur famille, ils ont laissé leur pays, leurs coutumes, sont allés, puis ils ont vécu avec des gens qui ne connaissaient pas leurs coutumes, ils ont appris leur langage, ils ont travaillé à traduire la Bible dans leur langage. Voyez-vous comment c'est tout un effort quand on pense à ça, là, tout le travail missionnaire qui s'est fait à partir des apôtres et jusque ça s'est répandu sur toute la terre, là. Puis il y a même des endroits où les missionnaires ne sont pas permis d'entrer. On laisse pas, il y a des pays qui sont réfractaires, qui ne veulent pas entendre le message. Même on pense au bord du rideau de fer en Russie, dans ces endroits-là où on ne voulait pas entendre le message de l'Évangile. Quand même, le message de l'Évangile s'est répandu là-bas. Puis il y avait une histoire de quelqu'un qui y avait pris le dictionnaire des athées. Puis dans le dictionnaire des athées, ben, pour contredire la parole de Dieu, il fallait qu'il cite la parole de Dieu. Puis lui, il avait tout découpé les versets qui étaient dans le dictionnaire des athées. Il a tout pris les versets, puis il s'est fait une Bible avec ça. Il avait mis ça dans un scrapbook, puis il a lu ça, puis il a connu l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. On voit que la puissance de l'évangile, là, assez répandu par la puissance du Saint-Esprit. On voit dans le livre des Actes, c'est l'Esprit qui poussait, puis qui dirigeait, puis qui donnait la puissance pour aller proclamer l'Évangile. Puis Paul, il parle aux Colossiens, il parle de l'Évangile qui est dans le monde entier, puis qui porte du fruit. Quand on prêche l'Évangile, c'est sûr qu'on rencontre beaucoup d'adversités, mais il est prêché aux nations. Il y a des chrétiens partout à la surface de la terre. Puis à la fin, on sait dans l'Apocalypse, quand on voit qu'il y avait des gens autour du trône qui venaient de toute langue, de toute nation, de toute tribu, de toute famille, il y a des gens là qui sont. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu le message de l'Évangile qui a été répandu, même dans les pays où les missionnaires ne sont pas permis d'aller. Eh bien, il y a des gens même là qui vont aller là pour travailler, pas comme missionnaires, parce qu'ils ne pourraient pas rentrer, mais ils vont là pour aller travailler, puis ils sont missionnaires en même temps. Donc, on voit comment il y a des gens qui ont mis tellement d'efforts pour aller prêcher l'Évangile. Puis, je lisais par rapport à des tribus des gens qui ont tué les missionnaires. On pense à Jim Elliot et les quatre autres missionnaires qui ont été tués par les Oka, mais ils ont quand même rejoint, ils ont donné leur vie pour rejoindre ces gens-là. Puis je lisais aussi un autre récit comme ça, qui ont été dans les tribus, puis aussi les missionnaires ont été tués, mais ils ont quand même réussi à rejoindre même les meurtriers de ces missionnaires-là. On voit comment c'est fort, la prédication de l'Évangile. Hein? Le Seigneur avait donné la grande commission, puis c'est vraiment fort. Le mystère de la piété était prêché aux nations, puis il est encore prêché aux nations. Puis on voit que j'ai lu aussi à quelque part qu'il y a trois stations de radio qui sont placées d'une façon stratégique pour diffuser le message de l'Évangile 24 heures par jour sur toute la Terre. Puis vous savez, on peut. Comme au Mexique, à El Paso, ils ont des stations de radio qui diffusent, puis ils vont même installer au Mexique des tours pour que les gens puissent recevoir les messages qui sont proclamés, l'Évangile qui est proclamé, puis aussi l'instruction pour les gens qui sont sauvés. Et il y a des gens qui mettent l'effort pour proclamer cet Évangile-là dans ces pays-là. Donc, c'est même il y en a un que. Dan Gamwell, dernièrement, en voyageant dans le Mexique, il allait installer des tours de radio pour diffuser le message de l'Évangile. Puis il y a eu un accident avec sa femme, puis ils ont tombé en bas du chemin, puis sa femme a été prise en dessous de l'auto. Ils ont réussi à la sortir, tout ça, puis ils l'ont ramenée aux États-Unis, puis ils ont essayé de la soigner. Il avait amputé une jambe, puis il était en train d'amputer l'autre, mais était tellement. Elle a eu des infections, fait que finalement elle est décédée. Et on voit comment la force, la puissance pour aller proclamer cet évangile-là. Donc on peut dire, oui, il a été prêché aux nations. Le mystère de la piété a été prêché aux nations, mais cru dans le monde. C'est ça qui est important aussi. Tous ceux qui ont reçu le message de l'évangile. Puis nous autres, on se voit des fois là, dans notre petit coin là, où on était. Moi, dans la Gaspésie, à Saint-Anne-des-Monts, j'ai entendu l'Évangile. Le Seigneur avait un témoignage là-bas. Puis notre frère Richard, Élise aussi, en même temps, on a connu l'Évangile. Le message s'est rendu jusque dans des petits coins comme ça. C'est vraiment merveilleux. Il a été cru dans le monde. Puis la preuve de ça, c'est l'Église du Nouveau Testament. Vous savez, le fait qu'il y a l'Église sur la terre, c'est quelque chose. C'est vraiment le résultat du fait que le message a été prêché aux nations, puis a été cru. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, non de la volonté de la chair, nés du sang, mais de Dieu. Donc, c'est vraiment merveilleux de voir que l'Église du Nouveau Testament, ben, c'est le résultat de la proclamation du message de l'Évangile. À partir de la chambre haute avec 120 disciples, quand il y a eu le baptême du Saint-Esprit pour former un seul corps, former l'Église du Seigneur Jésus-Christ en un seul corps. Et à partir de là, le message s'est rendu jusqu'à nous, puis jusqu'à des confins dans des tribus lointaines, qu'il y a des gens qui se sont convertis au Seigneur, qui se réunissent selon le Nouveau Testament, qui servent le Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, des fois, ces gens-là de ces tribus-là, comme les Oka, ont été rejoints, puis à eux, à leur tour, ont été rejoints d'autres tribus. Voyez-vous comment c'est puissant par la puissance du Saint-Esprit, là. Mais l'Église a continué d'avancer à travers les siècles. Le Seigneur Jésus avait dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il dit, sur ce roc ou sur cette déclaration-là que Pierre avait dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, eh bien, c'est ça le message qui a été proclamé, le mystère de la piété qui avait été manifesté. Bon, mais l'Église a continué d'avancer à travers les siècles en dépit des persécutions. L'Église a rencontré des grandes persécutions. On lit dans des, puis même aujourd'hui, dans certains pays, nous, on a peut-être un peu de moquerie, mais on ne connaît pas tellement des persécutions physiques. Mais il y a des gens qui meurent pour leur foi, puis qui meurent pour proclamer l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Mais ils continuent toujours d'avancer à travers les siècles en dépit des persécutions, puis même dans les temps de persécution, l'Église devient encore plus forte, plus forte. Puis le témoignage devient encore plus grand. On sait que dans les temps de persécution, il disait que quand les martyrs étaient la semence de l'Évangile. Parce que même leurs bourreaux, quand ils voyaient ces gens-là mourir pour leur foi, pour le nom du Seigneur Jésus-Christ, ben les gens qui voyaient ça, leur détermination d'être prêts à mourir. On ne meurt pas pour un mensonge, parce que ça donnerait quoi de mourir pour un mensonge? Mais mourir pour le message puissant de l'Évangile, eh bien, même les bourreaux, même les gens qui les voyaient mourir, faire face à la mort avec une telle sérénité, puis d'être prêts parce qu'ils croyaient à la résurrection et qu'ils savaient qu'ils allaient entrer quand même, personne ne pouvait les empêcher d'être avec le Seigneur Jésus. Donc, c'était fort, le message était fort. Il y avait les persécutions, il y avait les attaques de l'extérieur. Il y a eu les attaques de l'intérieur aussi. On pense aux fausses doctrines qui ont été répandues dans l'Église. Mais l'Église est encore là aujourd'hui. On sait qu'il y en a qui se sont détournés de la foi, il y en a qui ont abandonné la foi, il y en a qui ont introduit des fausses doctrines pour tromper les gens. Mais en dépit de tout ça, les divisions aussi, l'Église est encore aujourd'hui, encore l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Puis quand le Seigneur Jésus va revenir pour prendre son Église avec lui, il va avoir même des croyants à ce moment-là sur la terre. C'est sûr qu'il va, en un instant, en un clin d'œil, il va ressusciter les morts en Christ, mais aussi, Paul dit, nous, les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, puis on va aller à la rencontre du Seigneur sur la nuit. Donc, à ce moment-là, depuis Jérusalem, après l'ascension du Seigneur, le Saint-Esprit qui est descendu, l'Église a continué, a été... Puis le message a été cru dans le monde, puis dans tous les pays. Le Seigneur avait dit que la porte du séjour des morts ne prévaudrait pas contre l'Église. Puis c'est vrai, on voit, c'est vraiment, même si c'est dans la faiblesse souvent, hein, mais les portes du séjour des morts n'ont pas réussi à éteindre. On a essayé de détruire la parole de Dieu, on a essayé de détruire les croyants, mais on n'a jamais réussi parce qu'elle se tient debout par le Seigneur Jésus-Christ. Puis, mais l'Église, on sait que c'est un organisme vivant. Puis un organisme vivant, on ne peut pas le détruire. On sait que les organisations, on pense les hommes, quand les hommes font des organisations, même les organisations chrétiennes, ça finit par se corrompre, ça finit par se détruire par elles-mêmes. Mais l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est le chef et dans le ciel, la tête est intouchable dans le ciel. Puis c'est lui qui donne, qui transmet la vie à ses croyants, puis les portes du séjour des morts n'ont pas pu prévaloir contre elles. Il y a des petites communautés de chrétiens qui se réunissent un peu partout dans le monde pour adorer, pour s'édifier, puis pour servir aussi dans des pays intolérants où on ne permet pas aux croyants de se rassembler. Ils se rassemblent en cachette. Il y a des églises clandestines, puis on continue. Le Seigneur reçoit l'adoration. Aussi, il y a un témoignage qui est rendu, puis ces gens-là s'édifient ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils sont le corps de Christ, puis c'est lui qui en est la tête, lui qui est dans le ciel. On sait que le Seigneur Jésus est touché par les douleurs, les souffrances que les siens ont. On voit quand il a parlé à Paul, il dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Puis il dit, qui es-tu, Seigneur? Puis, je suis Jésus que tu persécutes. Donc le Seigneur dans le ciel, c'est lui qui garde cette Église-là vivante. Puis il est dans le ciel. Mais ils sont dans le monde, les croyants sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils sont séparés du monde. Ils sont l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Puis ils vont quitter dans l'enlèvement. Donc, il a été cru dans le monde, il a été prêché aux nations, cru dans le monde, puis il va être, ils vont quitter. Tous ceux qui ont mis leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, ils vont quitter un jour quand, au son de la trompette, quand le Seigneur Jésus va venir sur la nuée, puis il va nous emmener avec lui dans le ciel. Mais après avoir le mystère de la piété qui a été manifesté ici, on voit le résultat de cela. Il a été prêché aux nations, il a été cru dans le monde, c'est ça que l'Église. Mais le Seigneur Jésus a été élevé dans la gloire. Ça, c'est notre sixième point par rapport au mystère de la piété. Il a été élevé dans la gloire. Donc, cette clause-là ici, c'est le résultat de la première, la manifestation. Le Seigneur Jésus, avant d'avoir été élevé dans la gloire, bien, il fallait qu'il soit manifesté ici sur la terre. Il fallait que ce travail de rédemption soit accompli par lui à la croix. Et bien, après, il a été élevé dans la gloire. Puis maintenant, le Seigneur Jésus est dans la gloire. Le Seigneur Jésus a un corps. Il est un homme dans la gloire maintenant, ce qu'il n'était pas auparavant. Mais maintenant, le Seigneur est un homme dans la gloire. Puis il continue son ministère. Le Seigneur Jésus a dit qu'il se sanctifiait pour nous. Il prie pour nous, il intercède pour nous, il est avec nous, il dit tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre, et il dit qu'il nous envoie pour aller prêcher l'Évangile, puis il va être avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc, le Seigneur Jésus, il est en train aussi de nous préparer une place présentement, et il nous. Il intercède pour nous, il prie pour nous à travers toutes nos difficultés. Le Seigneur Jésus, si l'Église a persévéré, si l'Église a continué, c'est à cause de l'intercession du Seigneur Jésus, puis l'aide de son Esprit aussi qui est avec nous. Mais quand on voit que le Seigneur Jésus a été élevé dans la gloire, on voit dans Jean 12, au verset 32, regardez quelques versets qui nous montrent qu'il a été enlevé dans la gloire. Donc, présentement, c'est notre espérance à nous. Qu'il y a maintenant un homme dans la gloire qui est le précurseur, qui est entré dans la gloire pour nous. Puis ça veut dire que nous aussi, on va entrer dans la gloire. À cause de lui, il nous a ouvert une route nouvelle et vivante à travers sa chair pour nous faire entrer dans la présence de Dieu. On y va par la foi maintenant, mais un jour, on va entrer avec nos corps de résurrection dans la présence de Dieu. Donc, dans Jean 12, au verset 32, le Seigneur Jésus l'avait annoncé. Il dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc le Seigneur Jésus il dit, quand je serai élevé de la terre. Dans Marc 16, on voit quand il a été élevé. Dans Marc 16, quand il était avec ses disciples sur la montagne des Oliviers. Marc 16, au verset 19, il dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Donc, on voit ici maintenant, dans Jean 12, il dit, lorsque je serai élevé de la terre, maintenant on voit qu'il était enlevé au ciel. Dans Luc 24, verset 51. Dans Luc 24, verset 51. C'est tous des versets qui nous parlent que le Seigneur Jésus a été élevé dans la gloire. 24 au verset 51, il dit, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Donc, on voit ici qu'il a été enlevé au ciel. Aussi, dans Acte 1, qui est le même auteur que Luc, qui commence ici dans Acte 1, et il nous dit, dans Acte 1, verset 9, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le dérobait à leurs yeux. Donc, on voit que le Seigneur a été élevé au ciel. Dans le verset 10, il dit, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Donc, on voit, il y a des gens qui disent que le Seigneur Jésus est mort, mais il est ressuscité. Il n'est pas apparu au monde. Il est apparu seulement à ses disciples. Puis on sait, pendant 40 jours, puis on sait qu'à même un point, il est apparu à 500 frères à la fois. Puis, mais là, il est parti au ciel 10 jours, après 40 jours, il est monté au ciel, puis ils l'ont vu monter au ciel. Dans Éphésiens 4, 10, maintenant, si on va dans Éphésiens chapitre 4 et verset 10. Tout ça pour nous dire que le Seigneur est monté au ciel, il a été enlevé, il a été élevé vers de la terre, puis il a été enlevé au ciel. Puis dans 4, 10, on voit où est-ce qu'il est allé. Il dit ici, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Donc, celui qui est descendu, le Seigneur est venu sur la terre ici, puis même il s'est humilié, il a continué de descendre jusqu'au tombeau, dans la mort. Mais là, il a été élevé, il est ressuscité, puis il est monté au ciel, mais il est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Donc, on voit son élévation, le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le résultat de son œuvre accomplie sur la croix, puis c'est l'introduction à son travail qui n'est pas terminé sur le trône. Seigneur Jésus est sur le trône, et son travail, c'est d'intercéder pour nous, de nous préparer une place, puis de revenir nous prendre et nous transformer, puis nous emmener dans sa présence pour l'éternité. Donc, la piété, c'est, on a dit, c'est la ressemblance à Dieu, c'est d'être comme Dieu, c'est le caractère de Dieu même. Ben, c'est le Seigneur Jésus qui est venu ici. La vraie raison qu'il y a une ressemblance à Dieu sur la terre, c'est le fait que le mystère de la piété a été manifesté. Dieu a été manifesté dans la chair. Ce mystère de la piété-là est grand. Il a été vu sur la terre. Puis ceux qui ont cru à son message, eh bien, cru dans le monde, eh bien, c'est là qu'on voit la ressemblance à Dieu. C'est là l'importance pour nous, en tant que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est de faire connaître que le mystère de la piété a été manifesté ici sur la terre, que ce mystère-là est grand, il a été manifesté dans la chair, il a été vu des anges, il a été un petit peu vu des anges, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, puis élevé dans la gloire. Donc, c'est ça qui est par rapport au mystère de la piété. Il reste encore un peu de temps. On va peut-être commencer. Là, on arrive dans les mystères. Ça, c'était les mystères doctrinaux. On avait vu le mystère de la foi, le mystère de l'Évangile, le mystère des Juifs et des Gentils dans un corps, le mystère de l'épouse, le mystère des sept étoiles et des sept chandeliers. Puis là, comme le dernier, le sixième, c'était le mystère de la piété. Maintenant, on entre dans des mystères ici. Il y a cinq mystères qui sont dispensationnels. Donc, par rapport aux dispensations, on verra ça. Qu'est-ce qu'on va regarder? Le mystère du royaume des cieux. On va voir aussi le mystère de l'aveuglement d'Israël durant cette dispensation-là qu'on voit aussi. Et le mystère de l'enlèvement de l'Église à la fin de la dispensation de la grâce. Et le mystère de sa volonté. C'est sa volonté qui va s'accomplir. Puis aussi, le mystère de Dieu, qu'on va voir plus tard, le mystère de Dieu, ben c'est toutes les questions que les gens se posent par rapport à Dieu, mais il va être révélé, les réponses à ça vont être révélées. Mais après, il va y avoir un mystère dévotionnel, c'est le mystère de Christ qui habite en nous. Puis après ça, il y a deux mystères diaboliques, le mystère de l'iniquité et le mystère de la grande Babylone. Donc, quand on voit le mystère du royaume des cieux, on va aller dans Matthieu 13. On va faire juste une introduction un peu de ce mystère-là du royaume des cieux. Puis, c'est dans Matthieu 13, on va lire les versets ici de 10 à 17. Donc, on va lire les versets 10 à 17 de Matthieu 13. On regardera les paraboles, chacune des sept paraboles qui décrivent le mystère du royaume des cieux dans sa forme intérim. Donc, les versets 10 à 17, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent, et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Et la raison pour cela, au verset 15, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Donc, c'est un mystère qui est révélé. Puis, on va lire les versets 34 à 35. Il dit, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Mais on pourrait se demander pourquoi que le Seigneur leur parle en parabole ici, pourquoi qu'il fait cela. Ben, quand c'est une série, les paraboles, c'est une série de sept paraboles. Et par cette série de sept paraboles-là, le Seigneur révèle la forme que va prendre le royaume de Dieu dans l'intérim. Le Seigneur était venu pour leur offrir le royaume. Ils ont refusé le royaume et maintenant le royaume de Dieu prend cette forme intérim qui nous décrit la période de la grâce jusque dans la grande tribulation. Parce qu'Israël n'ont pas reçu le royaume qui leur était offert, ça c'est le plan de Dieu maintenant qui se révèle pour la première fois. Ça, c'est des choses, comme il dit, des choses qui étaient cachées depuis la fondation du monde, qui sont révélées maintenant par le Seigneur Jésus. Ça, c'est-à-dire, c'est l'intervalle entre les deux venues du Seigneur Jésus-Christ, qui est décrit ici dans les paraboles du royaume qu'on va regarder ensemble en regardant chaque parabole. Donc, dans le chapitre 13 de Matthieu, là, c'est un point tournant qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu. On sait que l'évangile de Matthieu est écrit pour les Juifs. Le Seigneur Jésus est présenté comme le roi d'Israël. Mais à partir du chapitre 13, là, il y a un tournant, il y a un changement. Puis c'est important de comprendre ça. Le début de l'évangile nous fait comprendre pourquoi ce tournant-là. Donc, les disciples avaient demandé au Seigneur Jésus dans Acte 1 au verset 6, il dit, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et vous, on pense, là, les disciples, les Juifs aussi, pensaient au royaume. Ils pensaient le royaume que David avait conquéri ses ennemis, qui a amené un règne de paix dont Salomon était le roi. Il avait amené la paix, la prospérité. C'était un temps glorieux pour Israël. C'était le royaume, un avant-goût du royaume du Seigneur Jésus-Christ. Puis c'est pour ça que les Juifs, eux, ils s'attendaient au royaume. Puis les disciples, quand ils ont demandé, le Seigneur Jésus, il était mort, il était enseveli, il a été ressuscité, puis là, il est apparu, il était avec eux autres pendant 40 jours avant d'être enlevé au ciel. Puis eux, ils se demandaient, ben, où est le royaume? Puis ils ont demandé dans Acte 1, verset 6, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël. Donc, on voit que dans leur pensée, c'était toujours présent à cause de leur enseignement. Puis, ils s'attendaient, le Messie devait venir pour rétablir le royaume en Israël. On sait que Jean le Baptiste avait demandé dans sa prison parce qu'il s'attendait que le royaume allait venir. Il avait venu pour préparer la venue du roi. Puis, il a envoyé ses disciples lui demander, es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Il ne comprenait plus qu'est-ce qui se passait parce que lui était en prison, puis même on lui a enlevé la tête. Mais on voyait que dans la pensée juive, le royaume était important. On s'attendait à ce royaume-là. Sauf qu'il y a quelque chose qui est important. C'est que pour que le royaume soit un royaume de justice, qui soit établi éternellement, fondé sur la justice, il fallait que les sujets du roi soient rachetés. Donc, les Juifs, ils pensaient, eux, être délivrés de la tutelle de Rome. Mais vraiment, le Seigneur voyait le besoin plus profond de justifier ses disciples, ceux qui feraient partie du royaume. Il fallait qu'ils soient rachetés. Il fallait puis c'est pour ça qu'il fallait, comme le Seigneur Jésus a dit, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans son règne? Donc, c'est important, la souffrance avant le règne, à cause du péché. Puis le Seigneur leur a répondu quand ils ont demandé si c'était à quel temps viendrait le royaume. Le Seigneur leur a dit dans Acte 1, 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments. Quand on voit cette expression-là, les temps ou les moments, on leur voit aussi dans Thessaloniciens, Les temps et les moments nous parlent ici de la tribulation. Ils nous parlent de quand le jugement de Dieu va venir sur la terre pour enlever l'iniquité de la terre, pour établir son règne. Mais il dit, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ça va venir. Mais le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On voit comment le Seigneur leur montre ici là, comment le royaume prend une forme intérim en attendant. Un jour, le Père a fixé un temps pour les temps et les moments où le jugement va venir sur la terre pour enlever le péché, les scandales de la terre, afin que le royaume du Seigneur Jésus puisse être établi éternellement. Mais maintenant, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'était pour rassembler ceux qui vont faire partie du royaume. On sait que les Juifs, durant la tribulation, après que l'Église va être enlevée, le Seigneur va revenir avec les Juifs, puis il va les amener dans une souffrance à se tourner vers leur Messie, un tiers qui va survivre la tribulation, les deux tiers vont périr, mais ils vont finir, là, le royaume va venir à ce moment-là. Mais il fallait que le Seigneur Jésus rachète ces, puis eux aussi, à ce moment-là, ils vont être convertis dans un moment, la nation qui va rester, tous les Juifs seront sauvés à ce moment-là, ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin, ceux qui auront survécu la tribulation, vont tous être sauvés à ce moment-là. Puis, dans Acte 1,9, il dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir, mais on voit que c'est la forme intérim ici du royaume des cieux qui prend forme. Puis, c'est le temps de la grâce qu'on connaît, nous autres, sur la période de la grâce où l'évangile est prêché. Puis, le Seigneur rachète son Église. Et aussi, de la même façon, il va racheter aussi Israël pour qu'il puisse entrer dans son royaume qui va s'établir. On regardera la semaine prochaine, on va commencer les premiers chapitres de Matthieu pour démontrer pourquoi on en arrive là au chapitre 13, comment le Seigneur s'était présenté à Israël. Puis quand il arrive au chapitre 13, eh bien là, il y a une tournure pour démontrer que le royaume prend une forme intérim et on verra ça la semaine prochaine. Donc, je vais m'arrêter là pour ce soir, puis je vais vous donner la possibilité de prendre votre micro si vous avez des questions ou des commentaires à partager. On va faire ça pendant le reste du temps qui nous reste une dizaine de minutes.
Merci beaucoup, Gérald. J'aurais une question pour vous.
Ouais.
En ce qui concerne les anges, comme vous avez mentionné, ils observent les mouvements, okay, de qu'est-ce qui se passe. Lorsque quelqu'un vient au Seigneur, eh bien, ils se réjouissent que quelqu'un vient au Seigneur. Puis, ils ont un intérêt en ce qui concerne le plan de Dieu. Mais est-ce que les anges connaissent les prophéties bibliques à venir? Comme nous les connaissons à travers la Bible.
Oui, sûrement, parce que c'est les anges qui sont dans la présence de Dieu, ceux qui ne sont pas des anges déchus. Ils voient, on sait que dans l'Ancien Testament, ils voyaient dans le lieu très saint où l'endroit où le sang était appliqué, puis un homme pécheur pouvait s'approcher d'un Dieu trois fois saint. Puis les chérubins étaient là avec leurs ailes, ils se rejoignaient, puis leur regard était porté vers le couvercle qu'on appelle le propitiatoire, le couvercle de l'arche. Puis ils comprennent ces choses-là. Puis ils annonçaient aussi, on voit qu'ils ont annoncé à Marie, à Joseph, aux bergers, ils ont dit ces choses-là. Donc ils comprennent, oui, les choses de Dieu. Puis ils s'émerveillent de voir la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est un peu comme une leçon d'objet pour eux autres de voir tout ce qui se déroule sur la terre par la puissance de Dieu, ce qu'on a vu, le mystère de la piété qui a été manifesté dans la chair, qui a été justifié par l'Esprit, qui a été vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, puis élevés dans la gloire. Toutes ces choses-là, ils sont, ils voient ces choses-là, puis oui, ils les comprennent, eux autres. Mais c'est pour ça, comme tu dis, il y a plus de joie dans la présence de Dieu pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il aime le plan de Dieu, il aime la rédemption, il aime le salut des hommes qui viennent au salut. Satan, lui, puis ses anges, ils n'aiment pas ça. Mais les anges qui sont avec Dieu, eux, ils aiment ça.
Merci.
On voit leur enthousiasme dans ces choses-là, comment ils voient la sagesse, parce que c'est sûr qu'eux, ils adorent Dieu. Donc, ils voient la sagesse infiniment variée de Dieu qui les pousse à l'adoration.
Merci beaucoup. Peut-être une question, Gérald. On a mentionné tantôt, tu as parlé de Luc, le grand médecin, et puis c'est lui qui a écrit les Actes des apôtres aussi, hein? Dans les disciples d'Emmaüs, est-ce que ça se pourrait que ça soit un des disciples, ça sera Luc? C'est-tu possible?
Ben c'est Luc qui écrit le récit, mais il y avait Cléopas. On voit qu'il y en a un qui s'appelait Cléopas, l'autre, son nom ne nous est pas donné, je ne suis pas sûr si ça pourrait être Luc, peut-être, mais c'est lui qui a écrit le récit.
Merci.
Gérald, c'est intéressant ce soir quand tu as parlé des anges. On voit que à la naissance, dans Luc 2, les anges étaient là et annonçaient la bonne nouvelle qu'un sauveur vous est né. Après ça, les anges à la résurrection, ils étaient là et annonçaient une bonne nouvelle que le Sauveur, le Seigneur, était ressuscité. On voit le ministère des anges auprès du Seigneur. Puis ils annoncent pas mal tout le temps une bonne nouvelle. Puis quand le Seigneur il est enlevé, les anges ils annoncent aussi que le Seigneur allait revenir de la même manière comme on a vu dans Acte 1. C'est sûr que le Seigneur les avait annoncé dans Jean 14 qu'il allait le préparer une place et qu'il allait revenir. Mais c'est intéressant de voir que les anges annoncent une bonne nouvelle dans le ministère qu'ils font auprès du Seigneur. Il y avait un verset que tu as cité là, dans Luc 10, verset 15. De même, je vous le dis, il y a plus de joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et le verset 7 aussi. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. On voit quand un pécheur se repent, c'est de la joie dans le ciel. Intéressant, on voit que c'est important.
C'est sûr qu'eux, ils ont vu la rébellion de Satan avec ses anges. Puis ça leur démontre comment Dieu va avoir la victoire là-dessus. Satan a essayé d'empêcher Dieu d'avoir. Il avait créé l'homme pour sa gloire. Puis lui, il avait brisé, il avait amené l'anarchie dans la création de Dieu. Mais de voir comment Dieu ramène, puis eux aussi, ça leur montre qu'ils sont du bon côté. Ils ont bien fait de rester fidèles à Dieu, puis de pouvoir partager la présence de Dieu pour l'éternité. Satan et ses anges vont être jetés dans l'étang de feu, l'endroit qui a été créé pour Satan et ses anges.
Un autre verset aussi dans Luc 10, verset 20 et 21, c'est le Seigneur qui se réjouit. Et Luc 10, verset 20, je vais lire le verset. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, il dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu. On voit que le Seigneur se réjouit, il tressaillit de joie, parce que nos noms sont écrits dans les cieux. C'est le Sauveur lui-même qui dit ça, le Seigneur Jésus-Christ, qui tressaillit de joie, c'est merveilleux. On voit que, en tout cas, quand je lis ce verset-là, ça me réjouit le cœur beaucoup.
Mais c'est ça, quand on est, parce que quand on est avec le Seigneur, on a été racheté, on est un avec lui. Puis comme il a dit, afin qu'il soit un comme avec le Père, comme nous sommes un en parlant au Père. Donc on participe, la joie que lui a, on y participe. De même que les anges qui sont en harmonie avec Dieu, eux aussi participent à cette joie-là. Donc c'est une joie pour qu'on partage ensemble. Comme Jean a dit dans 1 Jean 1, il dit, nous l'annonçons, il parle de la communion avec le Père et avec son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, nous vous l'annonçons afin que votre joie soit parfaite. Donc, c'est ça. S'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres commentaires, on peut terminer par un mot de prière. Puis s'il y en a après qui veulent continuer à jaser, on peut jaser encore. Mais on va s'arrêter là pour ceux qui doivent partir. Seigneur notre Dieu, on te remercie de toutes ces choses grandes que tu veux bien partager avec nous, Seigneur, ces mystères qui sont vraiment grands, mais tu nous les as révélés, Seigneur. On pense au mystère de la piété qui est apparu. Jésus-Christ, Dieu manifesté dans la chair, on a pu voir sa beauté, sa grandeur, notre Dieu, et le fait qu'il s'est abaissé jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et ensuite qu'il était enseveli et ressuscité, puis qu'il était élevé au-dessus de tous les cieux. On te remercie, notre Dieu, pour un tel sauveur, un tel plan de rédemption que tu as accompli pour nous. On veut te louer, t'adorer, Seigneur, en attendant d'être enlevé, nous aussi, à la rencontre du Seigneur sur la nuée. Merci. Donne-nous, Seigneur, de proclamer cet évangile pour qu'il soit cru par d'autres aussi, puis qu'on puisse partager cette joie-là, Seigneur, pour un seul pécheur qui se repent. Que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Merci encore une fois, notre Dieu. On te loue pour cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.